Très content de le rejoindre à cette heure-ci, les mardis et jeudis dans cette période estivale. C'est Martin Thériault qui s'installe avec nous. Salut Martin!
Hey, salut FX, comment ça va?
En pleine forme, Martin, j'avais hâte de jaser d'Alexander Zarowski parce que là, j'ai vu son but sur les réseaux sociaux. Je sais qu'actuellement, il est en match préparatoire pour la prochaine saison dans la KHL. Je veux que tu me parles un peu de comment ça se passe pour lui et à quel point il faudra le surveiller dans les prochaines semaines. Comment ça se déroule en KHL dans son cas?
Ouais, ben on dirait qu'on a des souvenirs de l'an dernier avec Ivan Demidov.
Mais hein,
parce que c'est un petit peu la même situation. Alexander Zarowski, donc, justement, tu l'as mentionné, premier choix des Canadiens, 34e au total du repêchage 2025, qui là tente de se tailler une place avec l'équipe de Oufa dans la KHL, Salavat Oufa Youlaïev. Et présentement, donc, fait partie d'un tournoi préparatoire, le tournoi mémorial Ramazan. Et c'est intéressant, Zarowski, parce que j'ai eu l'occasion de voir un autre match préparatoire avant ce tournoi-là. Et si tu combines ça, Zarowski, c'est 2 points, 2 matchs, c'est un différentiel de +4. Donc, à quelque part, présentement, ça va super bien. On voit qu'il est extrêmement à l'aise dans les matchs dans lesquels il se trouve. La créativité de ce joueur-là, on le vantait déjà son année de repêchage, c'est quelqu'un qui est capable de faire toutes sortes de jeux, capable de tourner sur lui-même, capable de retenir son élan, capable de faire toutes sortes de choses pour influencer le jeu. Là-dessus, il est très Demidov. Et clairement, on le voit déjà, on le veut un peu ce matin, là. Déjà, c'est un aspect qui ressort. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si vous allez voir les Elite Prospects de ce monde, on va le classer à 163 livres. Moi, je trouve que ce qui est rassurant, c'est que clairement, il est plus là. Clairement, il est beaucoup plus gros. Moi, j'aurais le goût de dire peut-être un 175 ou 180 livres. Et ça fait en sorte que dans les coins de patinoire, et on l'a vu sur son but, oui, la manœuvre est spectaculaire, mais il trouve une façon dans le coin de la patinoire de battre 2 joueurs en couverture pour se faufiler vers l'intérieur. Clairement, il aurait pas fait ça l'an dernier. Ça, c'est un autre aspect qui est très positif. Puis défensivement, là, c'est, donc, tu sais, oui, il y a d'excellentes mains et tout ça, mais c'est quelqu'un qui est responsable, va appliquer de l'échec avant au bon moment, va toujours couvrir sa zone au bon moment, il y a un bon bâton et tout ça. Donc, non, c'est très, 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 très positif là, dans le cas de Zarowski depuis le début de son calendrier préparatoire.
Peut-il marcher dans les traces d'Ivan Demidov et jouer dans la KHL tout de suite après avoir été repêché dans la Ligue nationale, Martin, ou tu t'attends à une saison peut-être dans les rangs juniors de la KHL?
Moi, je pense que Zarowski, les rangs juniors, ça, je pense qu'on peut exclure ça. C'est quelqu'un qui a eu une saison assez dominante l'an dernier. Là. La question est davantage de savoir est-ce qu'il pourrait jouer entre la KHL, ouais, ou la VHL. La VHL, c'est la Ligue américaine de la KHL. Je pense qu'il a plus de chances que Demidov l'avait l'an dernier de se tailler une place dans la KHL, et je t'explique pourquoi. L'équipe d'Oufa, qui est dans l'est de la Russie, déjà, c'est une équipe qui est moins redoutable que ce que Demidov devait faire avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu un tournoi, ouais, préparatoire l'an dernier. Demidov ne jouait même pas avec le SKA. Il jouait avec une formation russe des moins de 23 ans. Une équipe de jeunes avait tellement été dominant que là, on l'avait intégré au SKA pour le début de la saison. Zarowski, lui, a déjà sa place avec Oufa, a joué son match préparatoire, le premier que j'ai regardé, au centre, ça c'est intéressant, au centre du troisième trio, et là aujourd'hui il était à l'aile du deuxième trio. Donc clairement, on le voit quand même dans un rôle assez important, on lui donne une deuxième vague d'avantages numériques, on n'a pas peur d'aller lui donner un 15 ou un 16 minutes de temps de jeu, c'est dire qu'on l'aime beaucoup, et je dirais, quand je parlais de profondeur et tout ça, le SKA de Saint-Pétersbourg, l'an dernier, il y avait un paquet de joueurs de la LA qui avaient déjà de l'expérience dans la LNH. Je pense à Yevgeny Kuznetsov, par exemple. Oufa, c'est une équipe qui a pas mal moins de talent. Premièrement, ils ont perdu beaucoup de bons joueurs. C'est eux qui possédaient le meilleur pointeur de la KHL l'an dernier, là, le fameux Josh Levo, un ancien de la LNH. Lui est parti. Il a son coéquipier Sheldon Rampel, 4e pointeur de la KHL, qui est parti également. Ça fait en sorte qu'il y a moins de profondeur. C'est une équipe qui est clairement moins redoutable. Et pour un gars comme Zarowski, ben, je pense que tu as plus de chances de te tailler une place. Moi, j'avais à parier. Je pense qu'on va le voir, peut-être pas toute la saison dans la KHL, mais la majeure partie de la saison dans la KHL.
OK, ma prochaine question concernant Zarowski. Rappelle-toi, Matvey Mishkov est repêché par les Flyers de Philadelphie. Par la suite, avec la formation en Russie du SKA Saint-Pétersbourg, a disputé quoi? Une seule rencontre avant d'être prêté à Sochi. Est-ce que, dans le cas de Zarowski, ce serait déjà pour un club qui est peut-être pas dans l'élite de la KHL, mais est-ce que c'est un club qui équivaut un peu à celui de Sochi, ou Sochi, on parle d'une meilleure organisation?
Je pense que l'UFA est quand même une meilleure équipe. Là, tu sais, Sochi, pour le comprendre un peu, c'était l'une des plus faibles équipes de la KHL. Ils étaient vraiment dans le bas du classement. C'est souvent une équipe qui servait justement au CSKA de Moscou, au SKA de Saint-Pétersbourg, aux grosses équipes de l'Ouest de la Russie. Ça, c'est important, là, faire la distinction entre l'Ouest et l'Est. Et on prêtait souvent des joueurs à Sochi. Donc, tu sais, on avait une formation qui était capable de se débrouiller, mais on perdait plus souvent qu'autrement parce qu'on avait une équipe moins redoutable. UFA, dans l'Est, c'est quand même une équipe qui est parmi les plus prestigieuses. Je me souviens notamment un Kirill Kaprizov s'est développé dans la formation de UFA avant de rejoindre par la suite le CSKA de Moscou et s'amener avec le Wild du Minnesota par la suite. C'est une équipe qui est plus aguerrie. On amène un peu plus de joueurs de talent, des joueurs canadiens. J'ai parlé de Levo, c'est quand même quelqu'un qui a un certain succès dans la LNH. Ça veut dire qu'on est capable d'attirer ces gars-là. Honnêtement, là, tu regardes vraiment dans l'Est de la Russie, UFA, habituellement, c'est l'une des meilleures équipes avec la formation de Magnitogorsk là, qui a gagné le championnat de la KHL, la Coupe Gagarine, en 2023-2024.
Tu t'attends pour la prochaine saison, tu t'attends à quoi dans le cas de Zarovski? Est-ce qu'il faudrait s'attendre à le voir en Amérique du Nord dans quoi? 2 ans dans son cas, minimum?
Moi, je pense que le défi, si je le compare à Demidov, Demidov avait de la force physique à prendre, mais la taille était quand même là. Il était 6 pieds 1 pouce. C'est quelqu'un qui avait déjà de l'expérience à son année de repêchage, on l'oublie, mais avait joué quand même quelques rencontres avec le SKA, pas énormément. Puis avait été, je me souviens, là, très, très, très bon dans les matchs préparatoires. Disons que Zarovski a plus de défis au niveau physique à aller prendre. Il y a encore de la force physique à aller prendre. J'ai mentionné qu'il y a eu une amélioration, mais évidemment, il va falloir qu'il progresse encore plus à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai le goût de penser, clairement, cette année, c'est dans la KHL au complet, et probablement l'an prochain également, tu sais, de s'assurer que Zarovski, un peu comme Demidov l'a fait l'an dernier, Demidov était l'un, à la fin de la saison, était l'un des meilleurs joueurs de la KHL au complet, mais c'est de s'assurer que Zarovski, lorsqu'il soit prêt à partir pour l'Amérique du Nord, qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre dans la KHL, qu'il soit confiant offensivement, qu'il y ait beaucoup d'espace, qu'il puisse tenter des jeux. J'ai parlé que son jeu défensif était excellent, ça, s'il n'y a pas de problème. Le gros aspect que je veux le voir améliorer, c'est peut-être son coup de patin. Okay. Je trouve qu'il y a une légère amélioration par rapport à l'an dernier. Moi, personnellement, ça me faisait énormément peur dans le cas de Zarovski l'an dernier, mais il y a encore une chose à aller améliorer. Je trouve que son accélération n'est pas encore à point. Dans la KHL, ça va bien, surtout dans un match préparatoire où l'exécution n'est pas extraordinaire. Là, j'ai regardé le match de ce matin et je te disais qu'il y avait beaucoup d'erreurs au niveau défensif. C'était pas chic. Là. Donc, s'il peut améliorer un petit peu sa vitesse et tout ça, ça va être primordial pour la LNH. Je lui donne un plan de 2 ans et là, à 20 ans, selon comment ça se passe, là, tu pourras l'amener. Si c'est Montréal, tant mieux, mais sinon, ce sera le Rocket de Laval. T'sais.
Quelles sont déjà ses grandes forces, Alexander Zarovski, Martin?
Clairement, c'est sa créativité. C'est quelqu'un là, qui, aussitôt qu'il a la rondelle, est capable d'accomplir. T'sais, on parle des Demidov, des Mishkov et compagnie. Ouais. Là. Il est capable de réaliser ces jeux-là. Tu lui mets de la pression, il est capable de se passer la rondelle entre les patins, capable de pivoter sur lui-même. C'est quelqu'un qui peut retenir son élan. T'sais, il y a vraiment beaucoup de gestes techniques qui font en sorte que c'est non seulement il a de la créativité, capable de faire beaucoup de jeux, mais il est également extrêmement imprévisible. Si t'es une défense, t'es un peu sur le qui-vive parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner. Et je dirais, deuxièmement, malgré son talent et tout ça, t'sais, parfois on va dire que ces genres de joueurs russes-là n'ont peut-être pas la meilleure éthique de travail, mais Zarovski, c'est quelqu'un qui va s'impliquer. C'est quelqu'un qui va aller dans les coins de patinoire. C'est quelqu'un qui va appliquer de l'échec avant. Donc, je dirais vraiment, talent offensif, ça, c'est clair, la créativité, les mains, élite. Et le côté effort est là également. C'est vraiment ces deux forces-là.
Je me rappelle que l'an dernier, on parlait beaucoup de l'arrivée éventuelle d'un Ivan Demidov. On parlait des liens entre Nick Bobrov et son père qui était quoi, recruteur pour le SKA de Saint-Pétersbourg. Est-ce que dans le cas de Zarovski, il y a des craintes par rapport au fait qu'il évolue en Russie ou il n'y a pas de crainte du tout?
Je pense que c'est moins grave qu'avec les Demidov, Mishkov et compagnie. La crainte était surtout par rapport au SKA de Saint-Pétersbourg et surtout l'entraîneur-chef de l'époque parce qu'il a été congédié à la fin de la dernière campagne, Roman Rothenberg. C'est surtout que lui était très vocal. Il insistait souvent sur le fait que les jeunes joueurs devaient passer par le programme de développement russe, devaient passer 5, 6 ou 7 saisons comme Evgeny Kuznetsov l'a fait, comme Kirill Kaprizov l'a fait. Je pense que c'est pour ça que c'est inquiétant. Et là, on le voyait un peu avec les jeux de les tractations, les jeux de pouvoir, de politique. On l'a vu, le Demidov était incroyable pendant 10 matchs. À un moment donné, paf, il était laissé de côté. Et on jouait beaucoup au yo-yo. Tandis que dans la formation de Ufa, les formations de Manny Togorsky et tout ça, t'as du talent, mais t'as peut-être un peu moins de profondeur. Donc, t'as intérêt davantage à utiliser tes jeunes et pour avoir souvent vu l'utilisation. Puis ça veut pas dire que Zarovski ne va pas se retrouver à un moment donné à être laissé de côté, mais on dirait que c'est peut-être un petit peu plus stable. Si Zarovski montre vraiment de belles choses au niveau défensif, s'il montre vraiment qu'il peut aider la formation d'Ufa, parce qu'il faut pas, faut pas se le cacher, ces équipes-là veulent gagner des matchs, là. C'est pas simplement du développement. Ben écoute, on va l'utiliser, il n'y aura pas de problème. Ça m'inquiète beaucoup moins que lorsque tu avais Demidov avec le SKA.
Et dans le cas de Zarovski, on parle vraiment d'un ailier. Là. C'est pas nécessairement parce que c'est la question qui est rentrée sur la messagerie texte, c'est pas vraiment quelqu'un qui va prendre des mises en jeu ou quoi que ce soit, c'est vraiment un ailier. Là.
Ben en fait, c'est intéressant, là, c'est ce que je mentionnais. Dans son premier match préparatoire, ouais. Il a toujours joué à l'aile. L'an dernier, je l'ai vu à l'aile. Je me souviens pas nécessairement de l'avoir vu au centre. Simplement que là, on l'a utilisé au centre. Dans son premier match préparatoire, il y a une semaine environ. De ce que j'ai pu voir, au niveau positionnement, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de problème. Il était capable de comprendre. C'était pas lui qui devait appliquer la pression. Il devait être un peu plus en retrait, travailler avec les défenseurs. Ça, il a parfaitement compris. La seule chose, c'est le plan physique également. Il prenait beaucoup de mises en jeu contre des gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Et honnêtement, tu voyais qu'il manquait premièrement de l'expérience pour protéger sa rondelle, pour être capable de justement surprendre l'adversaire au niveau synchronisme. Puis deuxièmement, le côté physique et force n'était tout simplement pas là. Donc moi, j'ai vraiment le goût de dire, c'est un ailier. N'y pensez pas comme un joueur de centre. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir vu ça dans ces matchs préparatoires-là, qu'on a tenté de le faire jouer à cette position-là.
Justement, de la LHGMQ, les camps tirent à leur fin. Le début de la saison, premier match de la saison régulière, c'est le 18 septembre prochain. Alors, on est un peu plus de 3 semaines avant le début de la saison. Mais qu'est-ce que tu as constaté durant ces camps-là et à quel point le calibre de la Ligue sera à surveiller en vue de la prochaine saison?
Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, il fait que je m'amusais de regarder ça parce que justement, c'est la première saison où t'as, ben, on s'entend les fameux impacts des joueurs, premièrement, qui quittent la Ligue canadienne de hockey pour la NCAA, mais un peu l'inverse aussi. Des joueurs américains qui ne s'amenaient pas nécessairement au Canada normalement, mais que comme tu peux garder ton admissibilité pour la NCAA maintenant, ben, ils n'ont pas peur de se retrouver au nord de la frontière. Et je trouvais ça curieux parce que je me suis dit, je vais comparer un peu les choix de premier tour du repêchage 2025 de la LHGMQ pour voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau pour se tailler une place avec les équipes. Ouais. Et petite parenthèse, FX, c'est que le repêchage 2025, si tu parlais à plusieurs intervenants dans le monde du hockey, on disait que la QV 2025 était possiblement l'une des meilleures depuis plusieurs années dans la LHGMQ. On la trouvait intéressante au niveau du talent et on la trouvait surtout intéressante parce qu'il y avait des joueurs de gros gabarit. On disait qu'on changeait un petit peu le portrait des joueurs qui étaient disponibles aux équipes de la LHGMQ et éventuellement, ça va rapporter pour le repêchage de la LNH, par exemple. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les 18 joueurs qui ont été repêchés en 2025, je viens de te le mentionner, on parle d'une lune, selon les experts, l'une des meilleures QV des dernières années. Tu regardes qu'est-ce qui s'est passé dans les camps d'entraînement, dans les 18 choix de premier tour, il y en a 8 qui se sont pas taillés de place avec leurs équipes, dont 6 retranchés. Donc, c'est pas simplement des joueurs qui ont dit « Ouais, je veux aller dans la NCAA ou dans la USHL » comme le choix des Remparts de Québec, James Cantlebury. T'as vraiment 6 joueurs qui ont été carrément retranchés parce qu'ils n'étaient pas de calibre pour leur formation respective. Alors que tu compares dans les années précédentes, je me suis amusé d'aller remonter jusqu'en 2022. 2022, il y a 3 joueurs de premier tour qui n'ont pas joué dans la LHGMQ la saison suivante. 2023-2024, c'est 2 joueurs. Moi, ce que ça me dit là-dedans, puis ce que j'ai même pas mentionné, c'est que tu as notamment Nolan Héroux, le 10e choix au total du dernier repêchage, a été retranché par les Sea Dogs. C'était le 14e meilleur pointeur de la Ligue M18-3. C'est de dire à quel point, selon moi, le calibre des équipes a augmenté. On a vu beaucoup d'échos à travers la Ligue comme quoi les camps d'entraînement étaient très relevés. Ça patinait beaucoup, il y avait pas mal plus d'expérience et qu'on s'attendait justement à avoir des équipes très relevées. Mais j'ai l'impression que l'un des indices, c'est justement au niveau de ces fameux choix de premier tour-là. Quand tu vois qu'il y en a déjà 6 et il y a encore des équipes qui n'ont pas remis leur formation finale, là, de voir que 6 choix de premier tour qui sont retranchés, dont certains qui avaient de bons profils, moi, ce que ça me dit, c'est que notamment les Américains rehaussent le niveau de la Ligue. On a ajouté également un 3e joueur européen, ça aide. Mais c'est ça, je pense que c'est extrêmement positif pour la LHJMQ. Ça va être plus relevé, on va être meilleur au niveau du développement. Et même les rangs 18-3A, d'avoir des héros et compagnie qui retournent dans cette ligue-là à 16 ans, ça va devenir pas mal plus difficile. Et quand c'est plus difficile, ben, tu t'améliores pas mal plus aussi parce que tu affrontes la meilleure opposition.
T'sais. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est les joueurs d'importance de la LHJMQ et une exode éventuellement vers les rangs universitaires américains. Mais quand j'ai vu notamment Justin Carbonneau repêché par les Blues lors du dernier repêchage, décider de rester dans la LHJMQ pour la prochaine saison, j'ai trouvé ça excellent. Est-ce que la LHJMQ se démarque, Martin, des autres ligues canadiennes, la OHL, WHL, comme étant une ligue qui a perdu le moins d'éléments clés, si on veut, vers les rangs universitaires américains?
C'est clair, c'est clair. Honnêtement, la LHJMQ est beaucoup plus est beaucoup moins désavantagée que les autres ligues présentement dans ce fameux dossier-là. En fait, le seul joueur de moins de 20 ans que la ligue a perdu, c'est Justin Poirier,
ouais,
qui a quitté le Drakkar de Bécomo pour aller avec l'Université du Maine. Sinon, là, tu sais, oui, t'as des Alexandre Blais, des Maël Saint-Denis, des joueurs comme ça qui sont partis, mais ils étaient à leur année de 20 ans, sont des joueurs de plus petit gabarit. Tu peux les comprendre de vouloir aller tenter l'expérience NCAA pour travailler un peu plus sur leur force physique. Je pense à Blais notamment, qui est un espoir des Ducks d'Anaheim. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Certains intervenants me mentionnaient à quel point le développement scolaire des joueurs pouvait peut-être inciter certains joueurs à demeurer un an ou deux de plus dans la LHJMQ. Pas que ça ne va pas arriver, pas que tu ne vas pas avoir des joueurs comme un Poirier qui part à 19 ans dans la NCAA, mais étant donné que tu as le système des cégeps et que là, par la suite, tu t'amènes à l'université par la suite, alors que du côté anglophone, on n'a pas ça. C'est l'école secondaire et immédiatement l'université. Ça fait en sorte que ça peut peut-être pousser certains joueurs à partir peut-être un petit peu plus tard. Deuxièmement, je l'ai mentionné brièvement dans mon point précédent, le fait d'ajouter un troisième joueur européen, ça rehausse encore le niveau, ça va encore améliorer. Et de l'autre côté, tu as plusieurs Américains de haut niveau. Il y en a un qui a signé justement un contrat dans la WHL plutôt aujourd'hui, là, qui est un bon espoir pour le repêchage 2026. Tu vois clairement que tu es quand même capable d'attirer certains joueurs un peu plus jeunes qui n'auraient jamais joué dans la Ligue canadienne de hockey auparavant et qui là s'amènent. Donc, le portrait que tu peux faire, c'est que finalement, la LHJMQ s'en tire super bien. Il n'y a rien qui ne dit pas que certains joueurs qui vont commencer la saison dans la NCAA ne vont pas être déçus de leur rôle, de se retrouver au sein d'un troisième, d'un quatrième trio, d'avoir très peu de temps de jeu, de ne pas avoir de visibilité, parce que, soyons clairs, la NCAA, le niveau va être très relevé cette année. Ben, c'est rien qui ne dit pas qu'ils vont pas revenir parce que soudainement, il y a une meilleure occasion dans leurs équipes. On le voit avec Justin Larose, devait jouer avec l'Université du Michigan. Finalement, est parti avec le régiment de Terre-Neuve parce que vu qu'il n'y avait peut-être pas de place nécessairement à Michigan. Donc, tu vois que la LHJMQ s'en tire bien finalement.
Je veux pas te prendre au dépourvu. Je sais que dans le cas de Caleb Desnoyers, il a été opéré à un poignet et il va être tenu à l'écart du jeu pour une période d'environ de 12 semaines. La nouvelle est sortie il y a environ 2 semaines. Dans son cas, il n'avait toujours pas pris de décision concernant son avenue, soit la NCAA, soit un retour avec les Wildcats de Moncton. Je sais qu'il avait été nommé capitaine des Wildcats avant la tenue du repêchage. Et je sais qu'à l'heure actuelle, après être rétabli à 100% de sa blessure, voulait toujours se tailler une place dans la Ligue nationale. Est-ce que tu as des échos? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Caleb Desnoyers? Est-ce que pour lui, l'avenue serait possiblement de revenir dans la LHJMQ?
Ben, ce qu'on entend un petit peu avec Caleb Desnoyers, là, c'est que ben, c'est justement, je pense qu'il se garde les portes ouvertes aussi. C'est pas pour rien qu'il n'y a rien d'annoncé. Il est blessé. Disons qu'il a le luxe d'annoncer ça. Moi, ce qu'on me dit, moi, ce que j'entends, c'est qu'on me dit ne nous inquiétez pas trop. Caleb Desnoyers devrait jouer dans la LHJMQ, devrait retourner avec les Wildcats de Moncton, qui, oui, a eu plusieurs départs après la conquête du trophée Gilles Courteau, là, mais ils ont encore une bonne équipe. Je parlais des Américains qu'on a ajoutés. Il y a un Américain qui est à surveiller, Ryan Chodzinski, qui est quand même assez bon. Lui qui va être à surveiller. Donc, on verra bien. Il n'y a rien d'officiel. Tant que c'est pas officiel, disons. Mais de ce qu'on me dit, on peut quand même être optimiste de voir Desnoyers dans la LHJMQ.
Martin Thériault, tu es une encyclopédie de jeunes espoirs qu'on surveille en vue des prochaines années pour percer dans la Ligue nationale. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui. Super apprécié. On fait ça ensemble pour une dernière fois jeudi 15h, mais on va t'entendre un peu plus cette année sur les ondes de BPM Sport, notamment comme co-animateur du podcast Processus avec Anthony Marcotte et Marco D'Amico. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui, Martin.
Ben, ça fait plaisir, n'importe quand, fixe.